singa.
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 Sorry, let me tell you about.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carlos et Sofia pour ce podcast. J'ai eu la chance de rencontrer Carlos il y a maintenant quelques années avec Singa et il fait partie de mes personnes préférées sur Terre. Arrivé de Colombie en tant que réfugié, son parcours a clairement mal commencé, avec près d'un an passé à vivre dans la rue pour ensuite reprendre ses études et être aujourd'hui diplômé de Sciences Po Paris. Il est passé par l'ONU, qu'il a ensuite quitté pour lancer deux entreprises d'économie circulaire, l'une cultivant des ruches à Paris, l'autre produisant du café à Montreuil. Il a rencontré il y a quelques mois Sofia, française venue d'Argentine. Voici leur histoire d'amour.
J'étais dans un moment assez particulier dans ma vie et où il y a eu plein de changements. Et j'ai arrêté de travailler au HCR. Je me demandais ce que j'allais faire. Je voulais travailler avec l'association que j'avais montée. Mais en même temps, il fallait bien que je gagne ma vie. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai trouvé un boulot dans un coffee shop colombien. Et c'est des potes qui travaillaient là-bas. Il y avait presque tous mes potes qui travaillaient dans ces coffee shops.
Ils travaillaient dans un café qui était à 5 minutes de chez moi. Et j'étais en train de faire mon mémoire en sociologie sur les enfants des réfugiés politiques argentins ici en France.
C'était un boulot pour la saison. Et c'est là où je commence à travailler à Davidson Fire, un ancien arrondissement, à Square Gardet, qui est un lieu assez spécial, c'est hyper bobo, c'est super bobo ce lieu, mais c'est les coffee shops colombiens là-bas, au plein milieu. Et un jour, j'étais en train de faire mon service, et il y a un des mecs qui travaille là-bas qui me présente Sofia. Il me dit, ah, Carlos, tiens, elle est argentine, toi, t'es colombien, vous parlez espagnol. Et j'étais, ah putain, colombien, parce qu'à chaque fois, on me fait ça, quoi. Parce que je parle espagnol, je dois être pote avec tout le monde, tous les gens qui parlent espagnol. Et je l'ai vu, et j'étais, ok, bonjour, bonsoir. Je l'ai servi, plus rien.
Et bon, j'étais allée beaucoup de fois pour écrire mon mémoire. Mais après quelques fois, j'ai dit, bon, je vais rester un peu plus loin parce qu'il y a un très bon garçon qui travaille ici, qui connaît les mondes réfugiés ici en France.
Et peu à peu, on a commencé à dire pote, mais on a commencé à parler un peu plus. Il m'a posé des questions, il m'a dit, ah, toi, tu as fait Sciences Po, viens, tu peux m'expliquer un truc sur la géopolitique, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler.
Toi, que tu sais beaucoup de ce sujet, qu'est-ce que tu peux me raconter? Et donc, je pense que j'écris toute ma mémoire dans cette café. Et on a commencé à parler comme ça. Et bon, comme on partageait la même langue, bon, l'espagnol, ça... C'est vrai que c'était drôle parce que j'étais en train d'écrire une mémoire qui parlait beaucoup sur la langue et la place de la langue. Donc, pour beaucoup des enfants de s'exilés, la langue espagnole, parce qu'ils venaient de l'Argentine, c'était la langue de l'émotion. Et la langue française, c'était la langue de l'intellectuel, de la pensée. Je pense qu'il y avait quelque chose de familial dans la langue que j'ai parlé avec lui.
Et, bon, c'est un jour, c'était le 1er août, j'ai eu mon anniversaire. J'étais au service et je dis, après le service, on va partir une soirée, est-ce que tu veux venir? Il était avec une amie à elle. Et elle est venue faire la fête avec nous après. Il est venu faire la fête, et sauf que mon anniversaire, il a duré presque une semaine, en fait. On a fait la fête tous les soirs. Tous les soirs. Et à la troisième soirée, et je me souviens, on était pas loin des Rues Charron, je pense. une cave à vin, on buvait là-bas. Et quand on a sorti, on a pris tous les vélos, on allait rentrer à la maison, et j'avais jamais dragué Sofia, jamais. Il m'avait jamais dragué, on s'est parlé juste. Et je ne sais pas pourquoi, quand on est parti, on a pris les vélos, on a pris un peu le même chemin, et c'était dans les ronds-points qui montent vers Père-Lachaise, au boulevard Voltaire. Je la regarde, je lui dis, tu veux venir chez moi? Comme ça, de rien, c'est sorti comme ça, tu es chez moi. Et elle m'a dit, ok, elle est partie chez moi. Chez moi, que c'était pas chez moi, c'était une pote qui m'avait filé son appartement parce que j'étais dans la galère pendant 6 mois. Je n'avais pas où dormir, c'était une pote qui partait en vacances, m'a laissé son appartement à la place de la Réunion, dans les 20e. Et on est venu là-bas. On est venu là-bas et on a commencé à sortir depuis ce moment-là, on ne s'est jamais quitté. C'était hyper intense depuis le début. Et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. C'était hyper intense. Je me souviens, la première soir, je me suis réveillé à côté d'elle. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et je la voyais, elle me plaisait énormément. Et depuis ce moment-là, on ne s'est jamais quitté. On a passé énormément de temps ensemble. On a fait plein de trucs ensemble.
Mais un jour, je suis retournée chez moi. J'ai senti son parfum chez moi, dans mes trous, chez moi, dans mon corps. Et j'ai dit, oh merde. Et après, j'ai resté comme ça dans 2 minutes. Et c'était un truc très, très émotionnel, comme très inconscient. Il n'y avait pas oui, de dire, ah, oui. Bien sûr, je l'ai trouvé très intéressant. Je pouvais parler avec lui sur beaucoup de sujets. J'ai ri beaucoup avec lui. Mais il y avait quelque chose très inconscient qui me donnait envie d'être avec lui.
Bah, c'est quelque chose que j'ai réalisé plus tard, parce que pour moi, Sofia, c'était une fille argentine qui est venue en France pour faire un master d'études des genres en sociologie. Et c'était après que j'ai compris que Sofia, en fait, elle n'était pas ni Erasmus, ni migrante, ni quelqu'un qui est venu pour des études. Sofia, elle est française, en fait. Elle est française, il a un passeport français, il a eu toujours son passeport français, sauf qu'il avait été toujours à Buenos Aires. Sa maman, elle est française. C'est trop marrant parce que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est une grosse responsabilité, d'apprendre le français en française. Surtout que quand tu dis ces phrases, c'est un peu illogique. C'est un peu paradoxal, mais ça existe. C'est un réfugié qui apprend les français en français. C'est marrant. Moi, j'aime bien, mais c'est une sacrée responsabilité parce que tu peux voir déjà mon accent. Je fais plein de fautes. Après 8 ans, je continue à faire des fautes. Et je pense que c'est quelque chose que je vais garder. Donc, et du coup, j'ai la pression du fait que Sofia, peut-être, va avoir un accent colombien en parlant en français. Peut-être. Oh, ouais. Bon, il va faire les mêmes erreurs que moi. Mais c'est beau. C'est beau parce que c'est le renversement des rôles. Et c'est beau. Moi, j'aime bien ça.
J'aime beaucoup de parler de ça en français parce qu'il n'y a pas de jugement dans les mots que je dis. Donc, si j'essaie de parler sur ça en espagnol, il y aurait une part de mon cerveau qui dit, oh, attends, ça c'est beaucoup, attends, ça c'est. Ah non, mais peut-être c'est mieux de dire 7 mots à la place de 7 mots. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'engagement émotionnel avec les mots en français. Donc j'ai dit, j'essaie, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, bon. Donc il y a décidé, et c'est très bien de faire cet essai, de parler avec les mots qui viennent dans ma tête. En espagnol, je ne sais pas s'il viendrait comme ça.
me pose plein de questions parce que malgré tout, après 8 ans, j'ai pu apprendre plein de choses. L'autre fois, elle s'est mise à pleurer parce que j'écoutais une chanson, j'écoutais de la musique, j'avais mis Brassens, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai mis au moment où il était passé Les Passantes, ces chansons de Brassens, que j'adore. Je commençais à la chanter et j'ai vu que ça a mis à pleurer. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et après, il me disait, putain, mais ça fait 12 ans que je suis là et je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte, en fait. Je suis trop frustré. Donc, il était en larmes parce qu'elle est dans l'apprentissage de la langue et à ce moment-là, elle était frustrée parce qu'elle ne comprenait pas un mot. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture, c'est apprendre un contexte. Et peut-être elle n'a pas compris que Brassens, il a écrit sa musique dans un contexte particulier, il utilisait un argot particulier. C'est quelqu'un qui venait d'une région, qui a une histoire, qui avait une touche, qui avait un style surtout. Et pour elle, peut-être c'était quelque chose d'incompréhensible. Et du coup, j'ai compris que c'est plus compliqué que ça, apprendre une langue. C'est pas parler comme un livre, en fait. C'est plonger et aller comprendre toutes les subtilités, en fait. Toutes les subtilités. Et à partir de là, je commençais à lui montrer un petit peu ce que je connais, de la musique au fromage, quoi. De la faire découvrir, qu'un Colombien fasse découvrir un Français et les Beaufort, les Brie ou Truffes, les fasse découvrir, les Saint-Félicien, on puisse lui dire que les Camembert ou les Petits Brie, on peut le faire au barbecue. Et qu'après, on peut mettre une patate, une baguette tradition, bien sûr, dans les fromages, c'est sympa, quoi. C'est cool.
Pour moi, quand je suis venue, je n'ai jamais pensé que je tomberais amoureuse d'une personne qui vient du même continent que moi. Je pourrais parler dans la même langue avec mon copain. Et pour moi, c'est magnifique. Et vraiment aussi, tu découvres beaucoup de choses parce que même si on parle la même langue, notre langue maternelle c'est la même, on n'a pas la même culture. Donc tu as beaucoup de choses à apprendre. Oui, il y a beaucoup de choses que tu partages, mais il y a un monde de différence entre chacun. Et ça, c'est magnifique. Et pour moi, c'est un défi, toujours, de découvrir ce monde. Parce que quand tu arrives dans un monde qui est très loin de l'étienne, qui parle une autre langue, qui a une culture clairement différente, bon, il y a beaucoup de contrastes pour dire « Ah, je vais découvrir ça ».
Je sens que je l'aime. Je sens que je l'aime, ouais. C'est rassurant. C'est un moment où j'avais pas senti. J'ai vécu des choses fortes, j'ai senti des choses fortes pour des gens, mais sentir des choses fortes pour quelqu'un et être rassuré par cette personne, moi ça c'est l'amour, quoi. C'est trop beau. C'est trop beau.
Oui, je dirais qu'en fait, ils sont deux mondes qui se rencontrent. Je trouve que c'est magnifique de s'offrir, surtout d'avoir la volonté et la force de s'ouvrir au monde de l'autre et du monde qui c'est possible de rencontrer ensemble. Et oui, je pense que mon monde, il change après que je rencontre quelqu'un avec lequel je vais partager ces moments-là.
J'admire énormément ce qu'elle fait, surtout parce que j'ai l'impression que, non, j'ai la certitude qu'elle était dans un moment de basculement, de transition, qui est trop dur à vivre et que moi j'ai vécu personnellement. C'est le fait de se dire, est-ce que je suis en train de faire ce que j'aime en fait, ce que je suis en train de faire. Et je pense que là, elle s'est rendue compte que qu'un travail, c'est aussi une passion, et qu'un travail, c'est chiant, quoi. Travailler, c'est trop chiant. Et il vaut mieux faire quelque chose qui t'est passion parce que c'est moins difficile, c'est moins dur. Et surtout, c'est enrichissant si tu fais ce que t'aimes. Et là, je pense que dans les yogas, parce que Sophie, elle avait fait une formation des profs de yoga en Argentine. Après, elle a laissé un peu de côté, mais elle a continué à pratiquer pour devenir sociologue. Et c'est en France où elle s'est rendue compte que c'est vraiment ça sa passion. Mais elle ne laisse pas les côtés, la sociologie, les études de genre des côtés, parce que c'est son engagement aussi. Et finalement, elle trouve qu'avec le yoga et sa militance, sa passion pour les études de genre, il y a quelque chose en commun et qu'il peut faire quelque chose là-dedans.
Je viens de l'Argentine. Et je viens de l'Argentine, de Buenos Aires. C'est la capitale. Donc on a beaucoup de migrations et d'héritages européens. Donc du coup, j'ai rencontré beaucoup de choses sur la culture latino-américaine en rencontrant Carlos. C'était une belle surprise de me rencontrer avec une personne qui pouvait m'apprendre beaucoup de choses, même s'il parle la même langue, même s'il vient d'un pays qui est très différent au mien. Mais oui, j'apprends beaucoup de choses de mon continent en France.
Je me sens plus un migrant en fait, je me sens parti d'un tout, quoi, et c'est tout. Il y a des composants dans les gens qui habitent ici depuis toujours, des gens qui arrivent, et négliger ces parties de ce qu'on peut appeler la France, ce qu'on peut appeler les nations, ce qu'on peut appeler un État, c'est un peu casser ou essayer de forcer ou de séparer des éléments qui le composent. Et sous quoi ça tient les discours selon lesquels il y a des migrants, il y a des nationaux. Je vois pas quoi. Je vois pas quoi. On tombe tous malades, surtout dans les contextes actuels, de la même façon. On est tous solidaires de la même façon et on a tous peur de la même façon. Je pense que les frontières, elles existent comme un réflexe de l'éducation et de tout ce qui nous a pris depuis toujours. Mais si tu regardes dans la pratique, par exemple l'amour, là il n'y a pas de frontières. Je pense qu'aimer, c'est aussi faire confiance à quelqu'un. Et je pense que les frontières sont bâties dans la peur, sont bâties avec la peur surtout, énormément. Et s'il y a des frontières, c'est parce qu'il y a il y a la peur. Et quand on comprendra qu'on peut s'aimer, et qu'on peut aimer les gens qui sont là, de ces lignes qu'on appelle frontières, ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi? Ça sert à faire des beaux dessins dans un morceau de terre sur une carte. Et c'est tout.